Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Depuis qu'ils ont remporté des villes importantes aux dernières municipales en France, ils sont au centre de l'attention et ils savent manifestement maintenir cette attention car les dernières déclarations de certains maires verts sur la végétalisation des espaces publics et notamment scolaires, les sapins de Noël ou le Tour de France cycliste ont fait réagir le reste de la classe politique. Les responsables des différents partis ont bien noté le nouveau statut électoral de l'écologie politique et l'importance de l'environnement dans l'esprit des électeurs, pour s'y associer ou pour le déplorer, mais toujours pour en parler. Les autres partis doivent-ils courir après les écologistes? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui. Dans notre studio, il y a Marc-Olivier Padis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des études du Centre de réflexion Terra Nova. Et également Maël Thierry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service politique de l'hebdomadaire L'Obs. Et par téléphone, Daniel Bois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, directeur de recherche émérite au CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po, et spécialiste de l'écologie politique. Je le disais en introduction, l'écologie politique a changé de statut, mais peut-être que j'ai été un petit peu péremptoire après tout, mais Marc-Olivier Padis, est-ce que vous partagez cet avis ?
Oui, c'est ce qu'ont montré quand même les élections municipales, la capacité à convaincre des électeurs nombreux dans des villes importantes, là où les résultats n'étaient pas donnés d'avance. Donc, et aussi la capacité, qui est plus au centre de votre sujet, à entrer dans des coalitions avec d'autres partis de gauche et donc de construire un programme un peu large avec mouvements citoyens, alliances politiques, nouvelles sensibilités et même dans le cas de Grenoble, la capacité à défendre un bilan et à se représenter devant les électeurs. Donc tout ça montre quand même une dimension nouvelle de l'écologie politique.
Daniel Bois, est-ce qu'il faut relativiser quand même un petit peu ces résultats électoraux des municipales, notamment est-ce qu'ils doivent être pris avec prudence, hein, c'était quand même très particulier cette année?
Oui, il faut avoir une certaine prudence parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, les écologistes ont présenté des listes seulement dans 12% des communes de plus de 3500 habitants. Et les communes de plus de 3500 habitants, ce n'est pas la totalité de la France. Hein. C'est 28 millions d'électeurs et au total, il y a 48 millions d'électeurs. Donc, en réalité, le résultat dans ces communes où ils se sont présentés, ces 12%, ils sont effectivement intéressants. Ils ne sont pas d'ailleurs seulement les résultats d'Europe Écologie Les Verts. Quand on regarde de près dans les petites villes, il y avait beaucoup d'écologistes dits divers. Vous savez, il y a des divers gauches et des divers droites. Traditionnellement, ben maintenant, il y a des divers écolos. Et dans les petites villes, ils ont fait des scores pas du tout négligeables. Donc voilà, il faut relativiser en disant que ben, l'offre écologiste n'était pas très forte. La demande est peut-être forte, mais en tout cas, l'offre était moins forte, puisqu'ils ont pu être présents que dans 12% des communes. Pour des raisons simples, à mon avis, c'est que c'est pas très, très, très facile pour un parti qui n'a pas un grand nombre d'adhérents. C'est pas très, très facile de présenter 25, 30, 40, 50 candidats pour un conseil municipal. Donc ils n'ont pas réussi à le faire partout. C'est pour ça aussi qu'il y avait souvent des listes un peu mixtes avec des citoyens, etc. Donc voilà, ça permet un petit peu de relativiser. Mais ceci dit, là où ils se sont présentés, bien sûr, on a vu les cas surtout de Bordeaux, de Lyon, etc. Mais globalement, là où ils se sont présentés, même dans ces 12%, ils ont fait des bons scores.
Maël Thierry, on a eu l'habitude par le passé de voir les écologistes réaliser de bons scores aux élections européennes, enfin aux élections intermédiaires. Mais est-ce que le vrai changement de statut, s'il a lieu, ne doit pas avoir lieu en 2022?
Ah ben c'est la montagne à gravir. C'est même un peu l'Everest pour les écolos parce que jusqu'ici c'est l'élection l'élection principale en France, hein, l'élection présidentielle. C'est une élection qu'il n'a réussi pas du tout. Pour mémoire, hein, le meilleur score d'un candidat estampillé vert, c'est Noël Mamère en 2002, et il dépasse juste les 5%. Depuis, il y a eu plusieurs périodes où l'écologie avait le vent en poupe. Hein. C'était le cas, par exemple, avant la candidature d'Eva Joly en 2012, puisqu'ils étaient sur le lancement d'Europe Écologie, des bons scores, pareil, aux européennes.
Oui, 16% aux européennes,
voilà,
notamment.
Les aux régionales suivantes. Et puis finalement, la candidature d'Eva Joly, c'est un peu plus de 2%. Donc, ça reste quand même une vraie montagne à gravir pour les écologistes.
Marc-Olivier Padis, les écologistes eux-mêmes, comment ils se font à ce nouveau statut? Comment ils appréhendent cette nouvelle attention dont ils sont l'objet?
On a le sentiment qu'ils ont un peu de mal, justement, dans la perspective des prochaines échéances. Donc, il y a les régionales et les présidentielles. Alors, les régionales, dans le fond, c'est un peu comme les municipales, mais en plus grand, c'est-à-dire l'idée que on va pouvoir faire des alliances et que il faut monter des coalitions qu'on peut trouver. D'ailleurs, il y a déjà des candidats, donc ils peuvent être relativement optimistes. Après, il y a cette question, comme l'a dit Maëlle Thierry, des élections présidentielles où ils sont plus mal à l'aise parce que l'idée même d'avoir un candidat, c'est-à-dire quelqu'un qui se mette en avant, qui cherche un lien direct avec l'opinion, ça les met mal à l'aise.
On n'a pas trop le culte du chef hein, chez les écologistes.
On a plutôt l'habitude de couper les têtes, ouais. Et donc évidemment, ça ne met pas dans de bonnes dispositions pour cette élection-là.
Alors, Daniel Bois, quoi qu'il en soit, ils ont fait l'actualité ces derniers jours. Est-ce que c'est une volonté délibérée d'être clivant ou ce sont des initiatives individuelles et c'est juste l'attention qui leur est portée qui a changé la résonance en fait de leur déclaration?
Oui, je crois que c'est plutôt ça. Je pense pas que c'était délibéré. Ils se sont pas dit, là, on va parler du sapin de Noël et là, on va parler du Tour de France. C'est un petit peu hasardeux. Ce qui a changé la situation, c'est que l'espèce de choc des européennes puis des municipales, mais surtout des municipales, parce qu'il y a eu quand même des grosses surprises. Je veux dire que Bordeaux, Lyon, c'était vraiment pas attendu, hein, il faut le dire franchement. Et donc, il y a pas mal de groupes politiques, de partis, au fond, qui les attendent au tournant, pour dire les choses un peu simplement. Ce qui fait qu'à la première fois qu'ils sont sortis, qu'ils ont mis la tête en dehors du créneau, ils se sont fait canarder très très fort. Je ne veux pas aplanir les choses pour eux. Manifestement, ils ont sorti quelques formules vraiment très très imprudentes. Il n'empêche qu'ils étaient vraiment attendus par l'ensemble de la classe politique hors gauche et France insoumise. Donc voilà, je dirais un peu pour rattraper leurs histoires. Mais non, je pense pas du tout que c'était une stratégie concertée. Je pense que c'est certaines choses disent trop rapidement, voire maladroitement. Et puis c'est monté en puissance parce qu'on les attendait. Et puis les médias ont joué un rôle important dans cette affaire. Excusez-moi de le dire, mais ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup repris cette affaire. Cette affaire, jusqu'à ce que ça devienne une vraie affaire, alors que franchement, c'est pas une vraie affaire de mon point de vue.
Maëlle Thierry, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est pas une stratégie délibérée et même centralisée, si cela est possible chez les écologistes, comme on le disait à l'instant avec Marc-Olivier Padis.
Je nuancerai un peu parce que quand on regarde bien, le maire de Lyon, il a fait plusieurs déclarations à dessein pour bien marquer la rupture, le changement avec ce qui se passait dans sa ville par rapport à l'époque précédente. Le Tour de France, il le dit dans une interview. Le maire de Bordeaux, c'est lors d'une conférence de presse. Ce sont des propos quand même très très assumés. Je pense qu'il y a chez ces maires, et d'ailleurs il y en a certains qu'on fait témoigner dans l'Obs cette semaine, une volonté de marquer la rupture ou le changement avec les municipalités précédentes. Donc les écolos arrivent au pouvoir et il y a des choses qui vont changer, des symboles qui vont changer. Et je pense que par contre, ils ne mesurent pas à ce moment-là, sans doute, l'un et l'autre, les répercussions que ça peut avoir ou la perception que ça peut rencontrer.
On n'est pas du tout sur une stratégie clivante à la Nicolas Sarkozy, un jour une déclaration pour occuper l'agenda. On n'est pas du tout là-dedans, Marc-Olivier Padis.
Non, je pense pas. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Maëlle Thierry. Je pense que les Verts se sont souvent positionnés en fait sur des symboles sociétaux et c'est un peu la malédiction de ce parti, c'est qu'on les attend sur des sujets environnementaux où il y a quand même énormément à dire.
Et de plus en plus.
Et de plus en plus. Et finalement, ce qui est le plus audible, alors je ne sais pas est-ce que c'est le filtre des médias, comme dit Daniel Bois, mais ce qui est le plus audible, c'est quand même ces prises de position sur des questions qui ne sont pas directement environnementales, si on met de côté la 5G, et qui brouillent en fait le message. Mais on a vu ça avec Éric Piolle à Grenoble, on l'a beaucoup attaqué sur des symboles, sur la fin de la publicité dans les rues par exemple, et finalement il a quand même été reconduit assez confortablement même, et donc ça montre bien que finalement il y a un peu des mauvais procès dans ces sujets-là.
Marc-Olivier Padis, vous parliez tout à l'heure des alliances possibles. Alors les gauches, comment est-ce qu'elles voient cela? Les insoumis d'abord, est-ce qu'il y a des points de convergence avec les écologistes?
Il y a un problème, enfin, point de convergence sur le fond, c'est un peu occulté actuellement par le problème de la stratégie. C'est-à-dire que est-ce que il y a une volonté de construire un projet commun ou est-ce qu'il y a une volonté que chacun y aille pour compter ses forces dans cette élection centrale? Et pour le moment, en fait, le débat qui devrait exister sur comment est-ce qu'on construit un projet de gauche dans une coalition, comment est-ce qu'on monte une coalition qui est un peu un impensé de la gauche, est occulté par la prédominance des volontés stratégiques et des questions personnelles, en fait.
Daniel Bois, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ça? Les insoumis, les socialistes, il y a compétition, c'est clair.
Oui, il y a compétition, bien sûr, mais sur le fond, en dehors de ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis d'accord, sur le fond, il y a quand même des fortes convergences. Là où il y a une divergence assez forte, c'est l'Europe. Bon, mais l'Europe, on en dit des choses souvent assez contradictoires, ça peut rester dans un certain flou artistique. Mais c'est vrai que, en dehors de ces convergences de base, il y a une compétition d'individus. Parce que on sait bien que la présidentielle, c'est assez clair que s'il y a plusieurs candidats à gauche, comme ça souvent était le cas, s'il y a plusieurs candidats à gauche, il est certain que la gauche ne sera pas au second tour. Donc la gauche, l'ensemble de la gauche, Insoumis, PS, Écolo, se trouve devant un petit dilemme devant lequel ils ne se sont jamais trouvés. Avec ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, mais qui est absolument crucial, c'est que depuis les européennes, c'est les écolos qui sont en tête de la gauche. Mmh. C'est plus le PS. Oui. Donc ça change les rapports de force. Et dans les négociations à venir, je passe rapidement sur les régionales, ça sera une nouvelle occasion de voir les forces respectives. Mais si c'est confirmé, à savoir que l'écologie est plutôt en domination de l'ensemble de la gauche, ça va être compliqué pour la présidentielle. Alors on a entendu Olivier Faure dire que, au fond, le PS pouvait s'effacer devant un candidat écolo. Je n'ai pas le sentiment que tout le parti soit d'accord avec ça, mais admettons. Après, il reste Mélenchon. Alors est-ce que Mélenchon est prêt aussi à s'effacer devant un candidat écolo? Je vous pose la question, mais je crois que
vous avez la réponse.
C'est quand même beaucoup plus problématique, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas ça très bien, moi, personnellement.
Maëlle Thierry, chez les socialistes, notamment, on reconnaît qu'on est derrière ou est-ce qu'on il y a compétition, comme je le disais?
Il y a encore compétition, clairement. La nouveauté, enfin, il y a deux nouveautés. Il y a la nouveauté, effectivement, électorale, le résultat des urnes qui fait que en ce moment, les écologistes sont devant les socialistes, ce qui est une vraie nouveauté. C'est plus ou moins encore confirmé par le résultat de certaines partielles hier. Et puis, l'autre nouveauté, c'est le discours des socialistes, en tout cas du premier secrétaire du Parti socialiste, qui effectivement énonce l'hypothèse que les socialistes pourraient se ranger derrière un candidat écologiste. Ça, c'est tout à fait nouveau. Après, effectivement, faudrait qu'il arrive à embarquer tout son parti derrière lui, ce qui est loin d'être le cas. On sent aussi au sein du Parti socialiste une frange de dirigeants qui considèrent que ce n'est pas forcément le sens de l'histoire, que la question sociale est au moins aussi importante que la question écolo et que si on confie les rênes à un écologiste, c'est pas cette question-là sera reléguée au second plan. Je pense à l'ancien président François Hollande, Stéphane Le Foll. Enfin voilà, il y a des gens au PS qui sont pas du tout.
Les Hollandais, François Rebsamen, pour des raisons peut-être un peu plus personnelles, Anne Hidalgo ne ferme pas complètement la porte à ce qui va se passer dans les deux années à venir.
Non, et pour le coup, elle est sans doute à gauche
la plus compatible.
Voilà, celle qui a porté l'écologie tôt, dès son premier mandat. Enfin, elle en a fait le cœur un peu de son action. Donc, elle a l'étiquette écolo et l'action hein, qui va avec. Et puis, elle a une majorité plurielle à Paris. Enfin, une majorité où il y a des écologistes, des communistes. Alors, il n'y a pas les insoumis, mais c'est quand même une majorité de gauche assez large.
Alors, il n'y a pas que les gauches, Marc-Olivier Padis. Il y a aussi la majorité. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait faire de l'écologie un pilier du nouvel acte de son quinquennat. Est-ce que ça prend?
Emmanuel Macron, compromet lui-même par des déclarations intempestives et inutilement, à mon sens, provocantes, son bilan écologique. Parce qu'en fait, il peut défendre un bilan écolo. Il a pris des décisions quand même importantes sur Notre-Dame-des-Landes, sur Fessenheim, sur les centrales à charbon qu'il a fermées, sur le grand projet urbain qui était au nord de Paris, là, qui était une catastrophe
environnementale. Le centre commercial européen Europa City.
Voilà, Europa City, j'arrivais plus à retrouver son nom. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. Le fait de refuser, par exemple, de valider les négociations européennes avec les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, à cause de l'impact environnemental. Donc, il y a des choses, mais le problème, c'est que ça n'imprime pas, ça ne porte pas. Et quand il fait des déclarations à l'emporte-pièce et un peu méprisantes, en fait, sur la 5G, eh bien, finalement, ça efface tout le reste. C'est-à-dire, ça efface tout l'effort qui a été fait, ou ce qu'a fait Nicolas Hulot, ce que peut faire Barbara Pompili. Et donc, là, il y a une difficulté quand même assez spécifique. Et on peut aussi, et qui n'encourage pas tellement non plus l'idée pour les Verts, qui semblerait déjà assez baroque, de pouvoir envisager un jour une alliance avec La République En Marche.
Alors, Daniel Bois, c'est vrai, Emmanuel Macron a fait des gestes en direction des électeurs, en tout cas, soucieux d'environnement. On en parlait, l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Convention citoyenne pour le climat. D'un point de vue sondagier, si j'ose dire, il y a un résultat zéro.
C'est difficile, je suis d'accord avec les déclarations intempestives, ça détruit beaucoup de choses, je crois, hein, notamment la confiance. Mais la difficulté qu'a Macron et sa majorité actuellement vis-à-vis de l'écologie, c'est que, excusez-moi, je veux dire quelque chose d'assez simple, mais c'est plus facile de faire de l'écologie dans l'opposition qu'au pouvoir. Je veux dire par là que lorsqu'on est en charge des affaires, c'est assez difficile de dire « je supprime le glyphosate avant la fin de la semaine ». Mais s'il dit « je supprime dans 3 ans », il est considéré comme quelqu'un qui n'est pas écolo. C'est assez difficile quand même. Regardez le retour sur cette affaire des néonicotinoïdes. Je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, mais manifestement, il y a un enjeu un peu compliqué. Mais si on rétablit les néonicotinoïdes juste pour la betterave, eh ben, c'est considéré comme un retour admettant le massacre des abeilles, etc. etc., etc. Donc voilà. Nicolas Hulot s'est justement heurté à ce genre de choses. C'est que quand on est au pouvoir et qu'on veut, on a, je pense, la volonté d'avoir une stratégie écolo, on est empêché par beaucoup de choses très pratiques, très concrètes, qui sont les décisions à prendre, ce qu'on peut faire, la politique des petits pas. Vous savez, Nicolas Hulot, il a quitté en disant « je ne veux pas de la politique des petits pas ». Moi, je ne connais pas de politique des grands pas en écologie. Enfin, il y a eu quelques fois, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu des choses comme ça. Mais après, ça a été des petits pas. On a fait un grand pas, et puis pour appliquer, on a fait des petits pas. Bah, c'est une grande difficulté. Évidemment, quand on est un écologiste radical, sincère et tout ce que vous voulez, on va toujours dire qu'on n'en fait pas assez. Et là où Macron a un petit peu des problèmes, c'est que même le conseil qu'il a créé, vous savez, le Haut Conseil pour le Climat, chaque fois qu'il fait un rapport, ce Haut Conseil, il explique qu'on n'est vraiment pas sur la bonne stratégie pour ce qui est des gaz à effet de serre. Ça, c'est peut-être le plus ennuyeux.
Maël Thierry, est-ce que c'est par rapport à l'absence de résultats comptables sur le plan électoral et de l'opinion qu'il y a ce changement de ton d'Emmanuel Macron? Les Amish, je rappelle pour les auditeurs de RFI qui ne connaisseraient peut-être pas tous les Amish, c'est une communauté religieuse aux États-Unis qui refuse toute modernité et même jusqu'à l'électricité. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a ces déclarations sur les Amish, sur la 5G? Parce que peut-être que Emmanuel Macron se dit « ça marche pas ce que je fais, je prends mes pertes ».
Je pense qu'il essaie de scinder un peu l'électorat écolo, parce qu'il voit bien qu'il y a une grande partie de l'électorat aujourd'hui qui est sensible à la question écolo, hein, et plus que sensible même, qui le classe dans les priorités. Mais il y a plusieurs façons d'être écolo, et je pense que ce que cherche le président de la République, c'est à ramener à lui une partie d'un électorat qui serait, disons, plus modéré, plus pragmatique, moins idéologique, d'où le fait d'avoir une déclaration intempestive, caricaturale, mais à dessein, pour les renvoyer ces écologistes-là au camp de l'anti-progrès. Vous voyez, ils sont contre les vaccins, contre tout progrès technologique. Et moi, je suis l'écologie pragmatique, celle qui est compatible avec la croissance. Et en tout cas, il y a une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017 qui est sur cette ligne-là, qui était sensible à ce discours-là. Croissance verte, enfin voilà, c'est... Il a un électorat qui est là-dessus.
Marc-Olivier Padis, est-ce qu'Emmanuel Macron peut se passer d'une partie du vote écologiste pour être réélu?
Ah oui, d'une partie, c'est possible, effectivement, dans la sensibilité.
Mais il lui en faut quand même un petit peu.
Ah, il lui en faut une bonne partie. Alors, Parce que ce qu'on voit, par exemple, c'est la grande énigme que Daniel Bois connaît sans doute mieux que nous, c'est le vote écologiste des grandes villes, finalement. Les jeunes urbains qui votent écolo, donc qui sont quand même inquiets, qui voient les changements du climat, mais qui sont aussi sensibles à la cause animale, à la réduction de la consommation de la viande, à la biodiversité, à des questions scientifiques. C'est là qu'il ne faut pas avoir un malentendu sur l'obscurantisme écologiste. Il y a des gens pour qui les données scientifiques qui sont apportées par le GIEC, qui sont apportées par l'organisme international, l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, etc., c'est des faits, c'est de la connaissance. Mmh. Donc c'est pas des gens qui refusent les progrès de la connaissance. Au contraire, ils ont une lecture politique du monde qui est inspirée par les progrès du savoir. Bref, c'est finalement ces électeurs-là, ils sont peut-être un peu difficiles à saisir. Ils ont été macronistes, ça c'est sûr, au deuxième tour de l'élection de 2017, mais il faut pas les perdre par des déclarations qui peuvent paraître vraiment hautaines par rapport aux thèmes environnementaux.
Daniel Bois, je rebondis sur l'analyse de Maël Thierry. Est-ce que avec ces déclarations sur les Amish et la lampe à huile et la 5G, Emmanuel Macron tente de fracturer, de ramener vers lui une partie des électeurs écologistes?
Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a une fraction des électeurs écologistes au sens large, hein, le plus large possible, qui sont pas dans la logique à gauche toute des Verts, et qui sont pas dans la logique quand elle a une coloration un peu antitechnique ou antiscientifique. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, la clientèle de fond de Macron, ce sont quand même des professions intermédiaires, un niveau d'études élevé, etc. Et c'est pas très loin de ceux qui votent écolo. Donc il y a des électeurs là qui peuvent balancer un petit peu entre les deux. Et on voit bien que effectivement Macron avec sa déclaration là sur les Amish, c'est un peu pour casser en deux la petite partie. À mon avis, elle est minoritaire dans l'ensemble des écolos, mais il y a certainement une petite partie qui apprécie qu'à moitié peut-être l'engagement totalement à gauche des écolos et leur position quelquefois un petit peu violente sur les problèmes de la science et de la technique. Donc oui, je crois qu'il y a une entreprise d'essayer de récupérer, il n'y a pas de doute.
Maël Thierry, je rebondis sur la composition sociologique de l'électorat écologiste et pour parler de la droite. Parce que à l'issue des élections municipales, à droite, on s'est rendu compte manifestement qu'on n'arrivait pas à parler aux électeurs des grandes villes. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, mais il y a pas mal de retard à rattraper sur ce plan-là, il faut le dire. Mais est-ce que on est parti sur quelque chose de nouveau ?
Ah ben, il y a une prise de conscience contrainte et forcée, parce que la droite a quand même perdu des villes, Marseille, Bordeaux, je pense que ça a été un choc pour toute la droite, parce que c'était pas du tout attendu. Donc ils se rendent bien compte qu'il y a là un sujet qu'ils ont laissé en friche depuis de nombreuses années, alors que la droite a su à une époque le traiter, ce sujet. Enfin, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu quelques figures à droite, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour incarner une sensibilité écolo au sein de la droite. Il n'y a plus ça depuis des années, donc c'est un sujet qui a été complètement laissé en jachère et donc qui leur revient, si je puis dire, un peu en boomerang aujourd'hui. Ils se rendent compte que c'est une question pour les Français, donc c'est sans doute une question aussi peut-être pour une partie de leur électorat, même si elle n'est pas centrale, mais elle est quand même là. Et puis dans les grandes villes, ce qu'on disait, c'est que voilà, il faut bien aussi prendre en considération cette attente-là.
Ouais, l'attente environnementale, sociétale aussi, hein, que portent les écologistes, ça, la droite commence à s'en inquiéter un petit peu, Marc-Olivier Padis.
C'est ce qu'on voit dans le débat sur le cannabis, par exemple. Effectivement, il y a des maires de droite qui interrogent la logique uniquement répressive sur la consommation de cannabis. Et on voit bien que là, ça fait typiquement partie des thèmes sociétaux dont on parlait jusqu'à présent, où les Verts étaient assez présents, où ça correspond, disons, un peu au noyau militant des Verts. Mais moi, je dirais, la grande question pour la droite, qui est aussi une question pour les Verts, c'est est-ce qu'il serait capable d'envisager une alliance et même d'envisager de le dire. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Aujourd'hui, dans les sondages en tout cas. Aujourd'hui, il y a une alliance entre les socialistes et les conservateurs en Allemagne. Mais demain, l'alliance après les élections, celle qui est anticipée par les électeurs, qui est souhaitée par les électeurs, c'est une alliance entre les conservateurs et les Verts. Et les Verts disent, nous, on est prêts. Non seulement on est prêts, mais on le fait déjà dans certaines villes, dans certaines Länder, etc. Aujourd'hui, à l'échelle municipale, en France, ça n'existe nulle part, une alliance Vert-conservateur. Est-ce que ce serait envisageable pour les régionales, par exemple? Or, ce serait la seule manière pour sortir l'écologie, en quelque sorte, en tout cas, de son ghetto de naissance et donner une autre dimension politique.
Oui, si Maël Thierry, si tout le monde s'y intéresse, c'est la preuve que ça commence à devenir intéressant d'un point de vue comptable. Hein, je suis désolé, on parle de pourcentage et du nombre d'électeurs. Hein, c'est...
Bah bien sûr, les partis voient, les différents partis politiques voient bien que cette question dans les sondages est devenue dans les premières préoccupations. Bon, même si sans doute que la crise va la reléguer un petit peu, mais quand même, c'est assez nouveau parce que là, jusque-là, c'était assez marginal. Ils voient bien qu'il y a une attente de l'électorat là-dessus. Ils voient bien que dans les urnes, ça porte ses fruits aussi. Donc, ils sont tous obligés de s'y mettre. Tous. Mmh. On parlait de la droite. On entend chez Marine Le Pen aussi une tentative de récupération du thème écolo.
Enfin, alors voilà, oui, j'allais en parler. Le Rassemblement National, je ne sais pas comment il se positionne sur ces questions. Ça fait quand même des années, notamment, que le thème du bien-être animal est dans le discours. Marc-Olivier Padis, le Rassemblement National sur ces questions-là, il mène un chemin à lui. Enfin.
Oui, ils sentent qu'ils peuvent pas rester complètement en dehors du sujet. Ils choisissent peut-être ce qu'il y a de plus consensuel, qui est de et peut-être ce qui aura le moins de conséquences dans les décisions pratiques à prendre. C'est un indice effectivement que personne ne peut ignorer le sujet.
Mmh. Daniel Bois, tout le monde veut une part du gâteau. Enfin, ça paraît clair, non?
Oui, oui, mais bon, on a plus ou moins de mal à désigner cette part du gâteau et à savoir ce qu'on offre, en fait. À droite, on voit qu'ils ont un petit peu de mal. Hein, moi, je me souviens du programme de Fillon, on cherchait désespérément des traces d'environnement dedans. J'ai l'impression que la droite est en train de se mobiliser là-dessus, les questions, je ne sais pas, d'un tour de France de l'environnement, de choses comme ça. Bon, ça reste un petit peu à construire, en tout cas. Mais je reviens juste une seconde sur la question qui était évoquée il y a un instant, sur la question des alliances d'une autre écologie qui aurait des alliances au-delà du strict camp de la gauche. Ça, c'est vraiment complètement, totalement exclu par Europe Écologie Les Verts, par la direction et par les adhérents. C'est quelque chose qui est hors de portée, qui ne se fera pas, certainement pas. Même une alliance éventuelle avec Macron, c'est considéré comme quelque chose qui ne peut pas exister. Pourtant, Macron, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même pas la droite de la droite. Il n'empêche. C'est comme ça. Et regardez les difficultés qu'a Yannick Jadot, qui quelquefois a laissé entendre que peut-être éventuellement on pourrait étendre l'écologie un petit peu au-delà. Chaque fois qu'il dit ça, il se fait moucher par les Verts parce que ça ne peut pas être dans la stratégie actuelle et future, à mon avis. Je ne vois pas comment ça pourrait changer. L'Europe Écologie Les Verts. Il y a vraiment un interdit. Donc ce qui se passe en Allemagne, c'est en Allemagne. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas du tout ça.
C'est inimaginable. Quand on attaque ou qu'on tente de faire concurrence comme cela à un mouvement politique qui a le vent en poupe, hein, qu'on le veuille ou non, est-ce qu'il en sort affaibli ou renforcé, Maël Thierry ?
J'ai plutôt tendance à penser qu'il en sort renforcé, parce que ce qui apparaissait comme les gentilles idées des doux rêveurs sont quand même popularisées, reprises, récupérées. On entend des termes des écolos hein, depuis des années, depuis des décennies, qui sont maintenant dans la bouche des dirigeants à droite, dans la majorité. Donc de ce point de vue-là, par exemple, on a eu l'exemple aux dernières européennes, c'est-à-dire que tout le monde a eu un discours très écolo. Finalement, ceux qui en ont profité, c'est peut-être d'abord les écolos. C'est-à-dire qu'ils font quand même un score, c'est le troisième parti, plus de 3 millions de voix. Donc on voit bien, il y a toujours cette idée hein, de l'original et la copie, que je pense que malgré tout, le label écolo, c'est d'abord eux qui l'ont parce que c'est le parti écolo.
Oui, Marc-Olivier Padis, est-ce que ce sont eux qui donnent le là? Ce sont eux qui sont au centre du jeu? On peut le dire comme ça, aujourd'hui? rapidement en plus.
Oui, c'est fragile. C'est-à-dire quand même, on sent que c'est tout à fait pour les municipales, ils avaient un coup à jouer. Pour les régionales aussi, il y a des thèmes qui montent, mais en même temps, avec la crise qu'on vient de traverser, c'est les questions sociales qui vont prendre le dessus probablement.
Merci Marc-Olivier Padis, merci Maël Thierry et merci Daniel Bois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Florence Ponce et Arnold Lasseva à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et c'était Vanadis Feuille, pardon, à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au Débat du Jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est mardi, même heure, c'est mercredi, même heure, même endroit. Demain, il y aura un débat spécial Mali. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.